Infiltrée, une femme au stup. Vous êtes une espionne, señora. Cuba, j'en ai une vision romantique. J'avais porté dans ma jeunesse le t-shirt avec Che Guevara. Je suis ravie et curieuse de découvrir la société cubaine et ce qu'a construit le régime de Fidel Castro. Même si j'en connais les relents staliniens ou castristes, cela m'intéresse. Cuba, en 2006, est encore un pays très protégé de la drogue. Il est vrai qu'à l'époque, ils sont protégés de tout, du meilleur comme du pire. La drogue qui arrive vient de la mer, de bateaux « go fast » qui se risquent à aborder l'île. Pour l'instant, les autorités contrôlent la situation et Cuba reste à l'écart d'un tas de produits dont ils ne connaissent même pas l'existence, puisqu'ils ne sont pas fabriqués chez eux. L'importation est un gros mot ici, même en matière de drogue. Le narcotrafic gagne cependant sournoisement du terrain. L'île veut se préserver et modifier sa politique pénale en matière de stupéfiants. Les autorités m'ont commandé une semaine de conférences sur l'évolution de notre politique pénale en France depuis 1970, ainsi que ses applications et ses retombées. Le but de ce colloque est qu'il puisse à la fois s'inspirer de notre expérience et de ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Je pars avec Thomas, un avocat général brillantissime du CIFAD. On nous attribue comme logement une casa de protocolo, une très belle maison datant d'avant la Révolution, qui appartient à l'État et sert d'hébergement pour les hôtes de marque. Dans ma chambre, quand je veux téléphoner avec mon portable, je n'arrive pas à obtenir qui que ce soit. J'essaye sans relâche, imaginant un réseau défaillant. Le soir même, au dîner, la cuisinière très sexy qu'on a mise à notre disposition me dit, l'air de ne pas y toucher, « Señora, si tu as besoin de passer des coups de fil, tu sais ici, il y a un téléphone fixe. » Et elle me montre le téléphone, un gros téléphone noir antique avec un fil. « Oui, oui. Il faut que je passe mes coups de fil ici. Il n'y a pas d'autre solution. » Cela m'amuse beaucoup. Je me sens dans un James Bond des années 60, en pleine guerre froide. Je me dis que forcément, quelqu'un a mis une écoute dans ma chambre pour savoir si je passe des coups de fil. Il doit y avoir un mouchard quelque part. Je n'ai pas été formée à l'undercover pour des prunes, quand même. Je découvre facilement les micros cachés dans les rideaux que je laisse soigneusement en place. Et je décide de rire un peu. Désormais, dès que j'arrive dans ma chambre, je sors mes quelques mots d'espagnol. « Buenas tardes, estoy de vuelta. »« Bonsoir, je suis rentrée. » Ou bien « Ouh, je vais prendre ma douche. » Le matin, j'arrive dans la salle de bain en tapant dans mes mains et en clamant « Buenos dias, amigo !» comme dans le film « Good Morning Vietnam ». Thomas se moque de moi. « Mais non, vous vous faites du cinéma. » Il va rapidement comprendre que j'ai raison. Chaque jour, nos conférences sont enregistrées. Tout ce qu'on dit est réécouté par des commissaires politiques qu'on nous a présentés comme des traducteurs. Ils sont au moins 4 ou 5 à se relayer. Je ne pense pas que ce soit par respect pour le difficile travail de traduction, mais plutôt pour être sûr qu'il n'y ait pas de message politique caché dans nos cours. Nous parlons de la prise en compte nécessaire de la géopolitique des drogues. Or, pour les Cubains orthodoxes, les drogues ont été inventées par les grandes puissances pour détruire les déshérités de la planète. Le jour où je dis que la méthamphétamine aux États-Unis est typiquement une drogue de blanc, que ce n'est pas du tout un produit qu'on trouve dans le milieu afro-américain, ils me regardent avec des yeux comme des soucoupes. Ils ont encore une vision très manichéenne du problème. Par exemple, ils soutiennent à fond le Venezuela, qui est un des pays les plus trafiquants du monde. Mais tout est politique à Cuba. même l'air qu'on respire. Une certaine façon de lire le monde, après tout. Moi qui ai tant voyagé, je vais de surprise en surprise. Rien ne ressemble à ce que j'ai déjà vu. Nous sommes en 2006. On voit encore les grands panneaux très colorés avec le président Bush peint avec les cornes de diable. Partout sont affichés les posters géants du Che avec la phrase célèbre « La victoire ou la mort ». À part cela, les autorités qui nous reçoivent sont charmantes avec nous. Elles nous font visiter des tas d'endroits fascinants, des lieux historiques. Elles nous traitent comme des rois. À table, nous sommes en pleine saison de la goyave. Et tout est goyave. Le jus de fruits, le dessert, la confiture, l'accompagnement des plats. Curieusement, on ne mange pas de poisson dans l'île. Je m'en étonne. Et personne ne peut ou ne veut me répondre. Et puis, lors d'une balade sur le Malecón, la promenade de front de mer dans la Habana Vieja, quelque chose me semble bizarre en contemplant la mer. C'était nu. Je n'arrive pas à mettre la main dessus. Qu'est-ce que j'ai remarqué fugitivement dont je ne me souviens pas? Quelques jours plus tard, de nouveau sur le Malecón, je suis en train de fumer un cigare avec délice devant la mer. Soudain, je comprends ce que j'ai vu, ou plutôt ce que je n'ai pas vu. Il n'y a absolument aucun bateau. Il serait trop facile pour les Cubains de rejoindre Miami par la mer. Donc tous les bateaux sont interdits. Pour pêcher un peu, ils se mettent sur de grosses bouées, des chambres à air énormes, et ils sont obligés de rester à 20 mètres du rivage. Voilà pourquoi il n'y a jamais de poisson dans nos assiettes. Nous sommes filmés et enregistrés pendant nos conférences, ainsi que je l'ai déjà dit. Mais je sais que cela peut servir aussi pour la formation de policiers vivant de l'autre côté de l'île, qui est fort grande. Les policiers cubains viennent écouter nos cours en civil. Au fond de la salle, une brochette d'uniformes suit la séance tout aussi attentivement. Tous prennent des notes, posent des questions. À l'heure de la pause, on nous escorte jusqu'à un salon à part. On nous sert du thé, du café, des jus de fruits. Pas de discussion ou d'échange avec les élèves. Un jour, après la conférence, une des personnes de l'auditoire me fait signe et m'entraîne dans la rue. « Señorita, tu veux bien me montrer ton passeport ? Je n'en ai jamais vu de ma vie. » Les années suivantes, nous aurons l'autorisation de communiquer un peu avec les stagiaires. Je pense que pour les premiers stages, on nous testait. On nous choyait d'une façon inimaginable. Mais on nous gardait soigneusement coupés des Cubains, même dans la rue, où nous étions toujours escortés sous prétexte que nous pourrions être attaqués. On nous a emmenés nager avec des dauphins, visiter des îlots, les cayos, goûter l'inoubliable langouste de Cuba, qu'on ne croise pas des masses dans sa vie. Cuba est le pays où j'aurais été le mieux reçu de tous les pays où j'irais donner des formations. J'y serais prise en charge chaque seconde de ma vie et espionnée tout autant. À l'issue du cycle de formation, ma reconnaissance de stage est signée par Fidel Castro lui-même. Nous sommes reçus pour ce dernier jour par le plus haut gradé des généraux cubains, qui accorde beaucoup d'importance au stage. Nous buvons ensemble des rasades de rhum. Nous fumons des cigares, les cigares du Che, bien sûr, les partagas. On pourrait croire que nous sommes les meilleurs amis du monde quand il me souffle à l'oreille « Ah, señora, vous êtes une espionne. » J'ai beau lui assurer que non, il ajoute en me regardant avec un demi-sourire « De toute façon, vous n'allez pas me dire oui, señora, señorita. » La seconde fois que je suis envoyée à Cuba, c'est après le passage des cyclones, et les casas de protocolo ont beaucoup souffert. Nous sommes donc installés à l'hôtel. En rentrant le soir, je m'aperçois que mon ordinateur, que j'avais bêtement laissé dans ma chambre, a été visité. Je laissais toujours un cheveu disposé de façon bien particulière entre deux lettres du clavier, et il n'y était plus. Une mise en scène peut bouger sans qu'il y ait espionnage. La femme de ménage, par exemple, peut modifier bien des choses. Mais elle n'a pas à ouvrir un ordinateur. Mon espionne cubaine laissait des traces maladroites. Elle me piquait en plus des clopes, première erreur, et allait les fumer dans la chambre de Sidonie, qui faisait partie de la même mission, deuxième erreur, laquelle ne fumait jamais, troisième erreur. Sidonie me disait en riant « C'est drôle, j'ai retrouvé des filtres de clopes à toi dans ma chambre pendant que tu donnais ta conférence. » Je pensais qu'avec le temps, les autorités me feraient confiance. Mais non. Le général plein de décorations continue ses sous-entendus. Il est sûr que j'ai un autre rôle, politique bien sûr, que celui de donner des formations. Un jour, nous étions dans un hôtel d'État. Tout ce cirque m'agace, et je décide d'en avoir le cœur net. Pour cette formation, nous sommes tout un petit groupe. Mon ami Sidonie, Stéphane Thomas, mon directeur et quelques autres personnes. Le matin, nous avons l'habitude de partir tous ensemble dans le minibus qui nous amène dans la salle de formation. Au moment de monter avec les autres, je dis soudain que je ne me sens pas très bien et que je ne viendrai pas. J'avais mis Stéphane sur le coup. Notre chef de colo cubain s'inquiète pour ma santé. Mais comment ? Tu veux un médecin tout de suite ? Ils ont une médecine extraordinaire à Cuba. Je le remercie. J'ai juste besoin de me reposer. Ils partent tous. Je remonte dans ma chambre, redescends en catimini, jette un œil au-dessus du hall. Un type fait mine de prendre des notes derrière un pilier, tandis qu'un autre lit son journal, bizarrement appuyé à un buffet. Je sors ostensiblement à l'extérieur et je constate avec plaisir que ça s'affole à l'intérieur du hall de l'hôtel. Je fume deux clopes, fais un tour de jardin, en repère un ou deux autres qui ne me lâchent pas des yeux, et je remonte dans ma chambre. Je recommence mon petit manège trois ou quatre fois dans l'heure. Enfin, je ressors une dernière fois et je file de façon inattendue dans la rue. Là, c'est le branle-bas de combat. Je marche rapidement dans cette belle avenue arborée de la Havane. C'est une ville somptueuse, encore un peu décrépite à cette époque. Mais toutes les maisons sont bordées d'arbres centenaires majestueux. Je me fais vraiment plaisir avec cette promenade. Je marche sans m'arrêter pendant 3 heures, en faisant bien attention de ne parler à aucun Cubain que je croise. Je crains de les mettre en danger s'ils me répondent. Quand je pense avoir suffisamment fatigué mes suiveurs, je me retourne brusquement et je les vois, gros comme une maison. 2 mecs se cachent d'arbre en arbre pour me suivre. Marrant. Après avoir joué à la passante qui passe, je rentre tranquillement à l'hôtel. Je ne peux m'empêcher de leur faire un petit coucou de la main avant d'entrer et je remonte enfin dans ma chambre sans plus en bouger. Le soir, le directeur de colo, un peu goguenard, me dit « Alors, on m'a dit que vous allez beaucoup mieux, n'est-ce pas ?» Quoi qu'il en soit, mes stagiaires cubains étaient enchantés. Ils m'ont remercié pour le nouvel éclairage que je leur ai donné. Ils m'ont fait des cadeaux. J'en étais heureuse et confuse. Dans ces années-là, ils n'avaient pas Internet, juste la télévision cubaine. Ils ignoraient tout ce qui se passait en Occident. Ils pensaient que des hécatombes de gens y mouraient de la drogue. Je mets de la mesure dans leurs croyances. J'essaye d'être objective. Je leur explique tout de A à Z. Comment on la fabrique, comment fonctionnent les grands réseaux. Je brise leurs illusions sur leurs camarades des FARC, qui sont encore pour eux les combattants de la liberté. et jamais, au grand jamais, des trafiquants de drogue. Ils sont comme des enfants découvrant le monde, privés d'informations par le régime de Fidel Castro. Même s'ils ont des connaissances, elles restent très parcellaires. Je leur demande s'il y a des plantations et des consommateurs de cannabis ou de cocaïne à Cuba. La coke, ce serait trop difficile, avec leurs douanes maritimes tournant tout autour de l'île en permanence. Et quant au reste, ils disent que les Cubains n'ont pas besoin de drogue. Mais ils se préparent pour les années à venir. Ils ne sont pas fous. Ils savent bien que toutes les îles autour de Cuba sont gangrénées par les passages de trafiquants. Et même si les Cubains de Miami sont de mauvais Cubains pour eux, ils ont de liens très forts avec cette ville, qui est la zone d'entrée de la cocaïne sud-américaine. Une année, les Cubains nous ont offert un week-end à Baradero, le Saint-Tropez de l'île, à quelques heures de route de La Havane. La première fois qu'ils m'y avaient emmené, c'était dans une boîte un peu comme les Folies Bergères, avec des danseuses magnifiques, du strass et des plumes. Sauf qu'après le spectacle, tout le monde dansait. C'était fantastique. Pour ce week-end à Baradero, nous sommes dans un hôtel international grandiose, avec un bracelet all-inclusive, mais sans le droit d'en sortir. Je demande à retourner dans la boîte de la dernière fois. « Mais señora, tu as tout à l'hôtel. L'apéritif à volonté, la piscine. » J'insiste. L'un de nos mentors me dit alors que c'est fermé. Je m'entête. On pourrait au moins y aller tous. Surtout pas. On était au moins 4 ou 5. Il se disait qu'il ne pourrait pas nous tenir. J'ai quand même réussi à briser cette interdiction typiquement castriste. Nos gardes churum ont dû passer plein de coups de fil et penser que j'étais la fille la plus casse-couille de tous les pays capitalistes.